Bonsoir, c'est le moment des amis d'Orwell.
War is peace. Freedom is slavery.
Ce soir, on est parti aux nouvelles du collectif des jeunes mineurs isolés de Belleville. Ils occupent la maison des métallos à Paris depuis près d'un an.
C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens.
Seul comptait la police de la pensée.
Ils sont entre 400 et 500 jeunes exilés qui se battent depuis l'été 2023 pour être pris en charge en tant que mineurs. D'après la loi française, ils devraient être sous protection de l'aide sociale à l'enfance. Et au lieu de ça, la plupart d'entre eux ont été recalés à une sorte d'évaluation de minorité, un refus qu'il leur faut ensuite aller contester devant le tribunal. Et en attendant, ils doivent se débrouiller. C'est pour ça qu'à l'automne dernier, le collectif des jeunes du parc de Belleville s'est organisé. Et avec l'aide d'habitants et d'habitantes, ils se sont construits une lutte généreuse et revigorante. Après quelques occupations éphémères, c'était à l'Académie du Climat au début de l'année, comme aussi au centre culturel de la mairie, c'est le 104, rue de Beurvilliers. Maintenant, ils occupent la maison des métallos, un autre haut lieu de la culture de la ville de Paris. C'est l'ancien siège de la CGT des métallurgistes. Alors bien sûr, il n'y a pas que la mairie de Paris qui est censée gérer la situation, mais chacun se renvoie la balle évidemment. La préfecture qui répond à l'État qui ne veut surtout pas faire de vagues avant les Jeux Olympiques. Mais à Paris, c'est pas tant la mairie que le Conseil de Paris qui est concerné, puisqu'en tant que département, c'est le Conseil de Paris qui est censé mettre en œuvre cette protection que ces jeunes sont en droit d'attendre. Alors, nous avions déjà consacré une longue émission, c'était en mars dernier, sur leur situation, et nous sommes allés prendre des nouvelles à la maison des métallos, et nous avons retrouvé Fousseini, un jeune malien à qui nous avions tendu le micro dans l'émission. Il attend toujours la décision du juge des enfants sur sa situation, et surtout, il a reçu une bien curieuse convocation cette semaine, une convocation pour une audition libre au commissariat de police. Convocation reçue aussi par un membre du collectif de soutien. Alors, il nous racontera ça tout à l'heure, comme quoi, ignoré, humilié et maintenant clairement réprimé par le procureur de la République. Après le témoignage de Fousseini, on va rediffuser l'entretien réalisé avec Taïna, la bénévole du centre Tara, qui revient longuement sur toute la procédure complexe, inhumaine, raciste que l'on fait subir aux jeunes exilés de Paris.
Bonjour.
Oui, bonjour. Et je m'appelle Fousseini.
Okay, donc on s'est vu dans l'émission pour il y a environ un mois et demi. C'était au moment en pleine lutte, vous êtes encore en train de vous battre. C'était juste avant que vous occupiez le 104.
Hein. Oui, bien sûr.
Et là, vous êtes à la maison des métallos depuis quoi?
Non, c'est à peu près presque un mois maintenant, nous sommes là. Presque un mois. Demain samedi, c'est le 30e jour. Bon, l'occupation de la maison de métallo, c'était d'interpeller la mairie encore parce qu'on était intimidés en disant qu'on allait quitter les gymnases ou qu'on allait nous envoyer dans des provinces. Les places qui ont été obtenues grâce à des actions à la lutte, qu'on allait être expulsés. Donc la proposition de l'État aussi, la préfecture, c'était d'aller dans des provinces, vu qu'on a nos recours ici, on a une démarche administrative à Paris, on a fait des liens avec des habitants et habitantes solidaires ici. Donc ça nous empêche encore de quitter ici, d'abandonner tout. Tout ce qu'on a construit depuis le début, ça fait 6 mois ou 7 mois de cela.
Et puis c'était aussi une manière de vous isoler, de vous séparer, c'est ça?
Ouais, c'est la politique de l'État parce que... depuis le mois d'octobre, ils ont fait la même chose. Ils ont hébergé plus de 400 jeunes qui étaient dans le parc. Et après ça, ils ont demandé aux jeunes de faire une demande d'asile. Vu que les jeunes n'ont pas accepté la proposition, on les a remis tous au dehors. Donc c'était la même politique encore, qu'ils ont voulu exercer son nom et on a rejeté la proposition. Donc raison pour laquelle on a occupé la maison de Métallo, en disant peut-être à la préfecture ou à la mairie qu'on n'allait pas lâcher tant qu'il n'y a pas de solution pour tous les jeunes à Paris.
Parce que c'est vrai que pour les Jeux Olympiques, ils ont effectivement annoncé, il y a déjà eu des mesures où certaines personnes en situation d'exil se sont fait évacuer dans les villes de province. Donc là-dessus, vous avez été vraiment carré, vous avez réussi à bloquer le truc.
Bah ouais, on a réussi à bloquer parce que c'est pourquoi nous, les jeunes mineurs, on fait la jonction avec les différentes luttes à Paris pour dire que ce système-là, même si on n'arrive pas à la changer, mais au fur et à mesure qu'on lutte ensemble, on pourra arriver, quoi. Même si ce n'est pas maintenant. Et à travers cette lutte-là, on ne va pas stopper les JO, mais on pourra visibiliser la lutte aussi à travers les JO qui arrivent, quoi.
Quand vous étiez au 104, ça a duré 2 jours, même pas. Une nuit.
Ouais, au 104, ouais. On a fait une journée et 2 nuits. Ouais. Et il y avait une mise à l'abri directe.
Et comment t'expliques qu'ici, ça dure depuis plus longtemps, ça tient plus longtemps? C'est votre solidarité ou c'est les circonstances?
Ouais, il y a de part et d'autre dedans. Il y a la solidarité qui est là avec les jeunes, entre nous les jeunes. La solidarité avec les soutiens aussi. Et les habitants et habitantes qui viennent en aide, quoi. Parce que il y a des dons qui sont faits pour qu'on puisse tenir la lutte, parce que s'il n'y a pas des dons matériels et financiers, on ne pourra pas tenir jusqu'à maintenant, parce que c'est nous qui faisons la logistique à la place de la mairie, on fait la sécurité à la place de la mairie, on fait tout à la place de la mairie, quoi.
Et comment vous êtes organisé avec les gens qui travaillent ici? C'est quoi l'ambiance?
Bon, avant qu'on occupe ici, on a vu... les responsables d'ici, en disant on était venu pour interpeller la mairie. C'est pas juste une occupation directe, immédiate, mais si on est reçu en délégation par la mairie pour discuter de la situation, c'est pas grave. Mais tant que la mairie ne nous répond pas, on ne pourra pas quitter. Les responsables d'ici ont appelé la direction et la mairie. On a pu discuter, la mairie disait en premier temps qu'il n'y a pas de solution, qu'ils ne peuvent pas débloquer un gymnase soudainement, quoi.
Donc là, est-ce qu'ils vous ont proposé là d'aller dans des gymnases pour faire la même chose que depuis 6 mois, en fait, où vous trimballez de gymnase en gymnase?
Mais cette fois-ci, il n'y a pas de gymnase. C'est pourquoi on est là jusqu'à présent. Parce que la mairie dit qu'elle n'a pas de gymnase.
Que les gymnases sont tous occupés pour les Jeux Olympiques, c'est ça, c'est ce qu'elle dit.
Justement, c'est ça qu'ils disent. Que cette fois-ci, il n'y aura pas de gymnase. C'est pourquoi le lundi, ils nous ont proposé un lycée qui était déjà fermé. Ils nous ont proposé, mais on disait que ce n'était pas une solution convenable. Parce que nous, on était au Comico. Moi, j'étais convoqué au Comico.
C'est toi qui étais convoqué, ok. Ouais.
Moi, j'étais convoqué avec un militant du 20e solidaire, accusé du vol en réunion et entrave et concertée, qu'on empêche les
activités culturelles.
Qu'on empêche les activités culturelles aussi, tu vois. Donc, le lundi, on a répondu à la convocation au commissariat du 11e en disant que c'était pas normal de convoquer un jeune mineur qui ne connaisse rien de ce qui se passe réellement. Ouais. Seulement qu'il est là pour réclamer son droit.
Et vous savez qui a porté plainte pour que ce soit la convocation? C'est le procureur? C'est la justice ou c'est la mairie?
C'est les deux, non? À un moment donné, on se disait que c'était la mairie ou la préfecture. Mais arrivé au commissariat, c'est là qu'on a su que c'est le directeur général par intérim du lieu qui a porté plainte.
Directeur général du lieu?
Ouais, qui a porté plainte contre le collectif. Ils ont pris du temps à,
ouais,
à accumuler les accusations. Quoi.
Oui, est-ce que ça puisse être crédible, tu vois?
Justement.
Alors qu'en fait, c'est juste que de l'intimidation.
C'est quoi. De l'intimidation et vous, peut-être nous montrer que, voilà, comme nous sommes en lutte totale, on ne veut pas lâcher et qu'on empêche les activités qu'ils ne veulent pas perdre, ouais, de la thune. Donc, ils veulent sortir de mille manières pour nous chercher du lieu.
C'est quoi les suites? Ils vous ont convoqué pour un procès ou ils vous disent que il y a une enquête qui est en cours
Bon, on n'a pas la décision du procureur d'abord. C'est la décision du procureur, on attend. Si l'affaire sera classée ou s'il y aura des enquêtes préliminaires aussi.
Parce que là, vous étiez convoqué en audition, on appelle libre, c'est ça?
Oui, il y avait une audition libre.
Ouais. C'est entre les deux, hein, tu comprends.
Justement,
hein,
si jamais... on attend la suite. Ouais.
Et donc, vous êtes resté là-bas combien?
On est resté...
4 ou 5 heures, non?
4 du temps à 5 heures, parce qu'on est rentré à 14 heures et on est ressorti à 18 heures.
Mmh. Et c'était quoi les questions, en fait, quand...
Bah, moi, ils nous disent qu'ils nous ont posé des questions. Si le jour de l'occupation, j'étais présent, bon... Je les ai dit que je garde le silence, toutes les questions qu'ils ont posées, je garde le silence.
Super.
D'après les conseils de mon avocat.
Ah ouais.
Ouais.
Donc vous n'avez pas été auditionné en même temps, évidemment.
Ouais, on n'a pas été auditionné.
C'était chacun de son côté pour.
Ouais, on n'a pas été auditionné en même temps. Tout le monde, parce que quand on est rentré, il y avait le procès verbal d'abord qui a pris une heure et demie. Et après, on est passé à l'audition, qui a un peu duré aussi à une heure.
Il y avait beaucoup de gens que vous soutenez, j'imagine, ouais.
Oui, il y avait des soutiens totaux qui nous ont permis aussi à tenir dedans. Parce que les camarades des habitants et habitantes des assos, des collectifs, les représentants des collectifs, des élus, qui étaient là devant la mairie du 11e, et qu'on a marché ensemble jusqu'à devant le commissariat. Nous, on est rentrés, et bon... Il y avait le soutien quand même qui était au dehors.
Puis je vous ai vu aussi à la manifestation du 1er mai, c'était chouette.
Oui, le 1er mai, c'est pour montrer aux différentes institutions, même avec des intimidations, même avec la répression totale, on ne va pas lâcher. Et on sait que la lutte qu'on mène, c'est une lutte crédible, ouais, c'est une lutte transparente et c'est une lutte concrète. Donc on est là juste, nous les jeunes mineurs, pour réclamer un toit, la santé, l'éducation et le transport, parce que c'est ça qu'on a besoin. Et si on doit l'obtenir par la lutte, on doit le faire, même si on est intimidé par ce gouvernement. Donc on ne peut pas lâcher, parce qu'il y a des intimidations, il y a la répression qui va nous arrêter. Quoi.
Vous êtes combien en gros là, à dormir un peu régulièrement?
En gros, nous sommes une centaine de jeunes.
D'accord.
Avec des soutiens. Les jeunes qui dorment ici, ils n'ont pas nulle part. Mais c'est le soutien qui change à tout moment. Parce qu'il y a des soutiens qui passent la nuit aussi, mais c'est des soutiens qui changent, qui se remplacent, et des délégués des fois. Les délégués des autres gymnases qui changent des fois.
Parce que vous êtes encore, vous, en recours, c'est ça? Vous avez fait un recours de minorité, vous avez refusé le... La première décision, et maintenant c'est la justice qui doit...
Justement, justement.
Justement,
c'est ça qui met des mois et des mois, jusqu'à 6 à 7 mois. Parce que moi, bon, notre première interview, c'est ça, j'avais déposé mon recours depuis le mois de décembre. Jusqu'à présent, j'attends l'appel de la juge ou du juge. Mais jusqu'à présent, basta, il n'y a pas de réponse.
Il y a des chances qu'ils attendent la fin des Jeux Olympiques pour traiter ces cas-là, quoi.
Ben justement, parce que... J'ai lu quelques articles qui disaient que voilà, qu'il y aura plus de 124 magistrats qui seront à Paris, qu'il y aura 124 magistrats, des greffiers, 200 presque greffiers.
Ils vont ouvrir des salles spéciales.
Justement, ils veulent pas. Ils veulent que les salles soient faites comme ils le veulent, pour que le jeu olympique aussi soit parfait à leurs yeux et aux yeux du monde entier. Quoi.
Ok, bon, ben merci Fousseini, bon courage pour la suite. Tout à l'heure, tu parlais des cagnottes pour vous aider. Il y a un site où on peut...
Oui, on a besoin d'aide financière. Il y a la page Instagram Belleville Mobilisation sur Insta.
D'accord.
Donc il y a le lien de la cagnotte aussi sur la page Instagram
du collectif des jeunes
de Belleville. Donc il y a le lien de la cagnotte. Donc tout ce qu'ils veulent faire, des dons, que ça soit financier ou quoi, ils peuvent le faire sur le lien.
Et on vous apporter des choses aussi ici.
Ici à la maison de Calais, on a besoin de dons, de filles, des denis, du lait, du café, comme ça, tout ce qui est la première nécessité. Ouais. Merci.
Moi, c'est Kaina, je suis de l'association Centre Tara, je suis bénévole et co-responsable du pôle juridique de l'association. Okay. Nous, on est spécialisés dans le suivi des procédures juridiques, administratives, sociales, des mineurs non accompagnés en recours. On suit aussi quelques jeunes majeurs étrangers et on fait de l'accès à la culture à travers des sorties culturelles. Ben moi du coup je suis pas du tout juriste, j'ai appris sur le terrain en étant bénévole auprès des jeunes. Il fallait apporter une aide juridique et administrative en plus de l'aide matérielle, parce que donner des tentes et des couvertures ça sauve, mais qu'en fait s'il n'y a aucun suivi des démarches derrière, les tentes on y reste à l'intérieur. Et donc on s'est formé comme on pouvait, il y a quelques juristes au sein de l'association, mais moi pas du tout, je suis en master de sciences politiques. Et en fait, c'est des procédures qui sont finalement assez simples parce que redondantes, et que dans la très grande majorité des cas, en fait, c'est les mêmes démarches à faire. Dans le cas d'un mineur non accompagné en recours, quand il arrive en France et qu'il se déclare mineur, la première étape, c'est de passer par un dispositif d'évaluation de minorité. Il y en a dans chaque département en France. Et c'est un lieu dans lequel des évaluateurs vont faire des entretiens avec chacun des jeunes d'environ 30 minutes et leur poser des questions pour essayer de remplir un faisceau d'indices qui pourrait prouver l'âge allégué par le jeune, c'est-à-dire sa minorité. Ces dispositifs d'évaluation, ils sont réalisés par des associations mandatées par l'État. Par exemple, à Paris, c'est France Terre d'Asile. Dans le 93, c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de ces évaluations-là. Il n'y a aucun diplôme d'évaluateur de minorité. En fait, c'est souvent des contrats précaires en intérim de personnes qui font passer ces évaluations-là à travers en fait des rapports typés où on pose systématiquement les mêmes questions à ces jeunes et où une très grande majorité d'entre eux donc sont refusés, leur minorité n'est pas confirmée par ces évaluateurs-là et donc se voient remettre un document qui leur dit nous on considère pas que vous êtes des mineurs au vu des informations que vous nous avez données et la prochaine étape ça va être d'aller déposer un recours de minorité dans un tribunal pour enfants. Si vous voulez contester cette décision. Les refus, ils se font sur la base de raisons qui sont à peu près toujours les mêmes. La manière de parler du jeune témoigne d'une trop grande maturité. La manière de se tenir du jeune témoigne d'une très grande majorité. Ou alors, le jeune n'arrive pas à donner des faits temporels qui puissent confirmer sa minorité. C'est-à-dire que souvent, il ne sait pas quand date le dernier coup d'État, quel âge a ses parents, ou quand est mort DJ Arafat. C'est un DJ ivoirien, il me semble, que tous les jeunes connaissent. Donc, on utilise ces choses-là. Enfin voilà, c'est des questions qui sont complètement lunaires. À telle canne, t'étais où pendant la Coupe d'Afrique et tu faisais quoi? Enfin, c'est un peu des questions qui sont faites systématiquement pour les piéger, quoi. On veut savoir à quelle date ils étaient dans quel pays, ils étaient à quel endroit, avec qui ils étaient, quand est-ce qu'ils sont partis. Et c'est des évaluations qui se passent juste quand le jeune arrive à Paris. Donc en fait, on est en plein dans les traumatismes liés à l'exil. On vient de mettre un pied dans notre destination d'arrivée, on n'a même pas le temps de se reposer parce que le droit au repos n'est absolument pas respecté. Les jeunes, ils se présentent à l'évaluation, le lendemain, 8 heures pétantes, ils sont convoqués, quoi. Pas le temps de se poser, pas le temps de dormir. Et donc, souvent, ils sont refusés.
Mais tu veux dire que ces questionnaires, c'est les mêmes, en fait, entre les associations, ils se repassent les...
En fait, les questionnaires, nous, on en voit beaucoup qui viennent des départements de Créteil, du 94, Bobigny pour le 93, et du coup, Paris. En fait, c'est toujours les mêmes procédés, toujours les mêmes questions. Alors, dans la manière de se présenter en termes de design, ça va être un petit peu différent, mais les phrases utilisées sont les mêmes, les questions posées sont les mêmes, et les motifs de refus sont les mêmes.
Ça ressemble un petit peu aux méthodes policières pour faire des entretiens hyper cadrés et pour repérer les petites réponses un peu soi-disant tordues, pour repérer les mensonges ou les falsifications, quoi.
Exactement, enfin, et puis la manière dont sont tournées les évaluations, il y a plein de jeunes qui ne maîtrisent pas forcément bien le français et qui, lorsqu'ils demandent un traducteur, la personne leur dit « non mais ça va, toi tu comprends ». Alors qu'en fait, la réalité, c'est que le jeune joue les prochaines années de sa vie en France à cet instant-là et qu'on leur refuse des traducteurs en malinké, des traducteurs en soussou, en wolof, parce qu'ils viennent d'anciennes colonies françaises et qu'effectivement, ils ont une maîtrise rudimentaire du français, mais donc ils sont capables de s'exprimer souvent et de comprendre. Alors, il arrive souvent que les jeunes arrivent avec souvent des extraits d'actes de naissance. Ce n'est pas pris en compte, ce qui est totalement illégal par ailleurs, parce qu'en fait, dans la loi française, il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'authenticité des documents, ce qui veut dire qu'en fait, seule la police aux frontières, qui a un département de vérification des documents d'état civil, est en fait capable dans ce pays d'établir la véracité ou non de documents d'identité. Si les dispositifs d'évaluation respectaient cette loi-là, je ne dis pas qu'ils confirmeraient tout le monde, je dis juste qu'ils prendraient la peine d'envoyer ces documents à la DFDI, à la police aux frontières, pour vérification avant d'émettre un refus à ces jeunes-là, ce qui n'est pas fait. C'est pris en compte dans le faisceau d'indices. On va voir sur le rapport d'évaluation que le jeune a effectivement présenté des documents, qu'ils ne peuvent pas attester qu'il est vrai ou faux. Par contre, on les refuse quand même.
En proportion, toi, t'estimes à combien les jeunes qui sont reconnus mineurs, en fait, par rapport aux autres ?
Moi, je dirais qu'à la première demande, il n'y a même pas 30% des personnes qui sont reconnues mineures. Et qu'ensuite, les jeunes déposent tout le temps un recours de minorité au tribunal qui dépend du département. Et ensuite, que là, on est sur presque 75%, je pense, d'acceptation, moi, dans ce que je vois, quoi. Alors, le jeune, il se présente donc au tribunal pour dire qu'il veut contester la décision du dispositif d'évaluation et qu'il demande à être représenté par un avocat pour aller voir une juge des enfants, puisque c'est la juge des enfants qui doit trancher, c'est son métier. Et donc, les jeunes se voient attribuer un avocat. Ils doivent compléter ce faisceau d'indices qui pourrait prouver leur minorité. Donc ça va passer par le fait de faire venir des documents d'état civil en France, parce que souvent ils les ont perdus en fait durant le parcours d'exil, ce qui représente un coût financier faramineux et qui est une des raisons d'être de Tara, c'est qu'on s'est rendu compte que les jeunes en fait parfois sombraient même dans la délinquance pour réussir à financer des documents d'état civil qui étaient leur seule porte de sortie de la rue. Et donc ça va aussi passer par le parcours d'intégration du jeune en France. Est-ce qu'il va faire des cours de français? Est-ce qu'il fait du sport? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et tout ça, après, il le discutera avec une juge des enfants. Il y a aussi des tests osseux qui peuvent être demandés.
Alors, ça, j'allais te poser la question, c'est encore en vigueur, ça?
Alors, les tests osseux sont encore en vigueur. Pendant très longtemps, à Bobigny, c'était pas demandé, parce que les juges considéraient pas que c'était un moyen correct de prouver la minorité des jeunes. Aujourd'hui, ça l'est de nouveau. D'accord. Dans tous les tribunaux, il arrive de demander des tests osseux. Nous, ces dernières semaines, on s'est rendu compte, par exemple, qu'au tribunal de Paris, ça devenait presque systématique, même pour des jeunes qui présentaient des documents.
Donc là, c'est à l'étape devant le juge, c'est ça?
C'est là, le juge c'est à des enfants. Du recours. C'est la juge des enfants qui ordonne le test osseux, et le jeune peut accepter ou non. Les jeunes ont le droit de refuser, mais alors, après, soyons francs, si le jeune refuse, on va dire qu'il n'est pas mineur et que donc c'est un menteur, sinon il le ferait. Et les tests osseux, c'est un procédé qui est honteux et que personne ne connaît, mais en fait, les jeunes vont faire des radios du poignet, des dents et parfois de la clavicule, et ces radios-là, des jeunes, vont être comparés avec des échantillons de radios réalisés dans les années 40 sur des enfants blancs, bien nourris, qui n'avaient pas vécu de parcours d'exil. Voilà. Et en fait, c'est les radios avec lesquelles sont comparées les radios des jeunes n'avaient absolument pas pour but de servir à faire ces tests osseux aujourd'hui. C'était vraiment dans une étude scientifique qui n'avait rien à voir, et elles ont été ressorties.
Les années 40, mais...
Ouais, non, pour de vrai. Les radios qui sont utilisées pour être comparées à celles des jeunes, elles datent des années 40, ouais. Okay. Et puis, de toute manière, que ce soit moderne ou non, enfin, on parle de conditions de vie totalement différentes.
Comme une espèce de vernis de légitimité.
Non, mais ils ne font même pas semblant d'essayer d'avoir des protocoles légaux et clairs, parce qu'en fait, tout le monde se fiche de cette question. Personne ne s'y est jamais vraiment intéressé. Il y a des associations qui ont fait du plaidoyer dessus, il y a même des enseignants-chercheurs et des médecins en fait qui le disent, mais...
Qui s'occupe de ça en fait? C'est des travailleurs sociaux, des médecins, oui, des radiologues?
Dans le cas par exemple d'un jeune qui se verrait demander un test osseux par une juge au tribunal pour enfants de Paris, il va être convoqué au SEMNA, qui est une instance de l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Donc départemental, il va avoir une nuit dans un hôtel social et le lendemain il sera emmené par un éducateur à l'hôpital Hôtel Dieu, au centre de radiographie, pour avoir ses radios.
Et après, donc ça dure combien de temps cette...
C'est tout le problème du recours de minorité. À partir du moment où un jeune va aller déposer son recours au tribunal, il va se passer entre 4 et 7 mois pour avoir une date d'audience devant une juge des enfants. Et tout prend énormément de temps. La vérification des documents d'état civil prend entre 1 à 2 mois par la police aux frontières. Ensuite, il faut que les documents reviennent. Si la juge demande un test osseux, le temps d'avoir une date déjà à l'hôpital pour avoir ces radios-là, ça va prendre 3 semaines. Le temps d'avoir les résultats, ça va prendre 1 mois. Le temps que la juge les reçoive et ordonne encore une fois une date d'audience, ça va prendre un temps fou. Et pendant tout ce temps-là, les jeunes en recours sont à la rue parce qu'il n'existe pas de structure d'hébergement pour les mineurs non accompagnés en recours. Ils ne sont pas assez mineurs pour avoir une prise en charge par l'ASE et ils ne sont pas assez majeurs pour avoir le droit au 115 et donc au service d'hébergement d'urgence. En fait, c'est qu'on dit qu'ils se déclarent mineurs, mais qu'ils ne sont pas prouvés mineurs, et donc ils ne peuvent pas bénéficier de la protection de l'enfance, jusqu'à ce qu'une juge confirme leur minorité.
Donc c'est pour ça que la réunion de l'autre jour, vous parliez justement des papiers de refus. Dans les foyers, enfin dans les lieux d'hébergement où ils se trouvent actuellement, en ce moment, ils expliquaient qu'ils recevaient des gens de la mairie de Paris qui leur demandaient ces papiers-là. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette démarche, toi ?
Alors oui, parce qu'en ce moment, il y a 450 jeunes qui sont hébergés dans des gymnases. Donc c'est vu qu'il n'y a pas de structure en fait existante pour les MNA, quand il y a des solutions d'hébergement d'urgence qui sont données, ça se fait beaucoup dans des gymnases. Mmh. Et donc là, oui, effectivement, on leur demande leurs documents de recours et de refus à l'évaluation. Moi, j'en pense que c'est ordonné par la mairie ou par l'État. On n'a pas la réponse dessus. Moi, j'ai été au gymnase hier, dans lequel les jeunes ont été convoqués. Et j'ai discuté avec les personnes d'Alteralia qui étaient présentes pour ces entretiens. Et qui m'ont dit qu'on leur demandait ces documents-là aux jeunes afin de constituer un dossier au SIAO qui s'occupe des hébergements d'urgence en prévision de la
forme d'orientation des hébergements d'urgence, c'est ça ?
Exactement, mais à la base c'est pour les majeurs. Ouais. Et donc qu'on constituait leur dossier en prévision de la fin de la trêve hivernale et d'une possible fermeture des gymnases pour leur donner des places dans des hébergements en Ile-de-France.
Tu sens un peu l'entourloupe, toi ? Tu sens quelque chose de tordu là-dedans ?
Mais moi je pense que tout est tordu à partir du moment où en réalité... les solutions d'hébergement d'urgence que sont les gymnases ou que sont les centres d'examen et d'accueil pour les demandeurs d'asile dans lesquels parfois sont mis les jeunes, en fait, ne sont pas sous la loi qui encadre la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est pour les locataires. Ça n'existe pas. On peut se faire sortir de centres d'hébergement d'urgence à n'importe quel moment de l'année. Et donc, moi, je ne dis pas que la mairie est pleine de mauvaise foi. Je pense qu'il y a une réelle volonté et des réelles tentatives d'essayer de trouver des solutions d'hébergement d'urgence pour les jeunes. Parce qu'il y a aussi la réalité des Jeux Olympiques qui fait que les gymnases, ils vont devoir les récupérer. Je pense qu'ils essayent de redispatcher ces jeunes. Je pense aussi que l'État ne veut pas coopérer. Et que c'est la préfecture aujourd'hui qui est en mesure de réquisitionner des places, peu importe où, que ce soit dans des logements, dans des centres d'hébergement. Et la préfecture, pour le moment, ne le fait pas. Et donc, je pense qu'il y a une entourloupe, oui et non. Il y a une tentative de leur trouver des places. Si la préf ne se bouge pas, les jeunes seront remis dehors.
Et donc, une fois, effectivement, qu'il y a tout ce parcours-là, donc le recours est effectif, donc la juge se prononce finalement sur mineur ou pas, tu dis, en gros, les trois quarts... C'est bon, ils sont admis.
Oui.
Donc là, c'est quoi la situation ? Donc là, il a droit à quoi, le jeune ?
Alors, quand le jeune il est reconnu mineur par la juge, il y a une ordonnance de placement qui est prononcée. Et donc, il est placé à l'aide sociale à l'enfance et est protégé comme n'importe quel mineur en France. Mmh. Donc souvent, ils sont placés là où il y a de la place. Donc ils restent pas tous en Ile-de-France, malgré le fait que c'est le seul endroit où ils aient des repères en France, parce que la réalité de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui et de l'Ile-de-France, c'est que tout est engorgé. Donc ils sont envoyés là où il y a de la place, et donc ils sont dans des hôtels sociaux, ou dans des foyers, ou dans des appartements en semi-autonomie. Dans l'idéal, les procédures de scolarisation sont entamées par l'éducateur ou l'éducatrice, ce qui n'est pas toujours le cas. Et une des choses qui arrive beaucoup, notamment dans le 93, c'est que le département fait appel de la décision de la juge.
Ah ouais.
Et donc là, on repart pour un tour de procédure où, en fait, en disant, nous, on vous dit que le jeune n'est pas mineur. Vous l'avez mis dans nos services de protection de l'enfance et il n'est pas mineur. Ça arrive souvent dans les 2 semaines suivant l'ordonnance de placement ordonnée par la juge. Beaucoup dans le 93. Ça se fait pas dans tous les départements. Et donc là, le jeune repart dans une bagarre juridique où il doit partir en cour d'appel, ce qui prend encore 7 mois. Et donc pendant ce temps, aucune démarche n'est effectuée par les éducs. Et donc il n'y a pas de scolarisation, il n'y a rien. En sachant que pour obtenir autre chose qu'une reconnaissance de minorité, c'est-à-dire un titre de séjour, il faut avoir une scolarisation, il faut avoir un contrat, il faut avoir quelque chose. Et donc les jeunes se retrouvent encore une fois dans des situations atroces. Et ça, le 9-3 est professionnel de ça. Ils ont un avocat exprès là-dessus qui fait appel sur tout le monde.
Est-ce qu'il arrive des fois que justement ces procédures sont tellement longues que finalement la minorité que nous en France on établit à 18 ans, à la fin on lui dit bah non c'est trop tard, vous venez de passer l'âge.
Oui, ça arrive, ouais. Ça arrive très souvent quand les procédures prennent beaucoup de temps. Par exemple, dans le cas d'un jeune qui, nous on a rencontré un jeune il n'y a pas longtemps, il avait 17 ans. Il est passé devant la juge il y a un mois, il avait 17 ans et demi. Il n'a pas été reconnu mineur par la juge, c'est-à-dire que tout ce qu'il lui reste de possible, c'est faire appel. Sauf que faire appel, ça prend 6 mois. Mais dans 6 mois, il est majeur. Et ben donc, en fait, il n'aura jamais de prise en charge par la protection de l'enfance.
Et je crois qu'il n'y a pas un principe que quand tu es pris en charge en tant que mineur par l'ASE, en fait, tu as jusqu'à 21 ans. C'est ça ?
Exactement, c'est pas systématique, ça a été encadré, ça s'appelle le contrat jeune majeur, c'est autant pour les Français que pour les étrangers, après la réalisation qu'en fait 70% des personnes à la rue en France sont des enfants sortis de l'ASE. Et donc y avait un réel problème dans le fait de faire des sorties sèches, ce qu'on appelle être mis dehors à 18 ans. Il y a le contrat jeune majeur donc, qui a été créé, qui fait que quand on a besoin d'une prise en charge, c'est-à-dire quand on est scolarisé ou en apprentissage, qu'on a besoin de continuer à être encadré, on bénéficie d'une prise en charge par l'ASE jusqu'à 21 ans. Alors ça, c'est pas systématique, c'est loin de l'être même. Tous les départements ne le proposent pas. Paris le propose énormément, par exemple, là où le 9-3 le fait pas. Ce qui n'est pas légal, parce que normalement, il y a une obligation de le faire. Et là, avec la loi Darmanin, ça va encore changer, puisque là où avant le contrat jeune majeur était systématique autant pour les Français que pour les étrangers, aujourd'hui, il y a une règle qui dit que pour un jeune qui aurait déjà reçu une obligation de quitter le territoire français, peu importe dans quelles conditions, il ne sera plus éligible au contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans.
C'est la loi immigration qui a été votée, là ?
Ouais.
Et qui n'a pas été censurée ?
Non.
D'accord. Attends, on apprend tous les jours. C'est sur l'aspect éducation, justement, là, je crois qu'au sein du collectif qui se réunit en soutien aux jeunes du parc de Belleville, il était question justement de mettre le paquet là-dessus, d'essayer de faire un peu bouger les syndicats d'enseignants pour que justement il y ait une double démarche, donc la démarche de reconnaissance de minorité, mais également le fait de pouvoir être scolarisé dans un des lycées ou collèges de Paris, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que
c'est... Moi, je pense que c'est une très belle initiative, même de réussir à faire converger les syndicats des travailleurs et travailleuses de l'éducation avec les collectifs de mineurs isolés, parce que c'est des questions qui se rejoignent complètement. Pour autant, ça ne peut pas concerner tous les jeunes. Pour être scolarisé, ça demande des démarches qui ne sont pas toujours faciles. Il faut avoir une domiciliation, ce que tous les jeunes n'ont pas. Et c'est dur de s'en procurer à Paris des domiciliations, surtout quand on est mineur. Et enfin, ça concerne les jeunes qui ont des solutions d'hébergement plus ou moins stables. Parce que pour se lever le matin, aller à l'école, rentrer le soir et faire ses devoirs, quand on vit sur un campement, c'est presque impossible. Moi, j'ai connu des jeunes qui le faisaient en vivant à la rue. Et en fait, finalement, ils s'endormaient à l'école tellement ils étaient fatigués. Leur seul repas de la journée, c'était à la cantine. Donc, il y a des capacités de concentration et de maintenir une scolarité qui sont presque impossibles pour des jeunes à la rue.
Mais domicilier dans un gymnase ou un foyer, même temporaire, ça fonctionne ça avec le rectorat, tu sais, ou...
En fait, il faudrait que la mairie de Paris, quand elle héberge des jeunes dans des gymnases, se mette systématiquement à fournir un document de domiciliation. Et les jeunes des campements l'ont même dit, nous, nos campements, c'est des lieux de vie informels. Dans la loi française, quand un lieu de vie existe depuis plus de 48 heures, il est considéré comme lieu de vie existant. Quand c'est sur les terres parisiennes, il faudrait au moins qu'une domiciliation soit possible en disant « il vit sur le territoire parisien, il vit dans un lieu de vie informel qui est un campement et qui n'est pas une solution d'hébergement ». Ça, c'est une réalité et les institutions sont responsables de ça. Mais il ne faudrait pas que ça bloque les démarches des jeunes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes des campements le revendiquent aujourd'hui. Nos campements sont sous le pont Neuf, sous le pont de Sully, sous le pont Marie. On vit à l'hôtel de ville, on vit à Paris. Donnez-nous des attestations de domiciliation.
Ok, et ça, ce discours-là, quand vous le formulez devant les agents de la mairie, ça donne quoi ? Ils sont...
En fait, on n'a pas d'interlocuteur à la mairie. La mairie refuse de discuter avec nous. Les seuls moments où on les voit et où on discute avec eux, c'est après des actions coup de poing, quand en fait, ils n'ont plus le choix que de ramener une délégation et de recevoir des jeunes. Et on est dans une telle urgence qu'il est difficile d'aborder ces questions-là, puisque tout tourne en général autour de... Il y a 100, 150, 200 jeunes à la rue, on veut des places d'hébergement, quoi.
Il y a eu un épisode un peu dans les mobilisations qui ont eu lieu ces derniers mois. Donc à l'Académie du Climat, qui est un énorme bâtiment de la mairie de Paris, qui a été confié par la maire à des associations, des groupes de jeunes écolos. Donc il y a eu une occupation de un peu plus d'une journée là-bas, c'est ça ? Et donc j'ai appris que les jeunes, ils ont eu droit juste à dormir une nuit là-bas, hein, et on leur a filé des bracelets
C'est quoi cette histoire ?
Ouais, du coup, dans le cadre de l'occupation de l'Académie du Climat, on a passé une nuit là-bas. On était soutenus par la mairie de Paris au sein de cette occupation. C'est pour ça qu'elle a pu avoir lieu, en fait, hein, et qu'on ne s'est pas fait sortir violemment par la police au bout d'une heure. Et donc, il y avait 140 jeunes qui étaient présents au sein de l'Académie du Climat. Les équipes de la mairie de Paris, responsables de l'hébergement et de la solidarité, ont établi une liste de tous les jeunes qui étaient présents afin de chercher des solutions d'hébergement et pour éviter qu'on soit tous cloîtrés dans le lieu et interdits de sortir, puisqu'une de nos revendications était de dire nous on dort ici, on sait pas combien de temps, il faut qu'on puisse circuler, aller et venir. Il a été dit que la liste serait faite, qu'il y aurait les 140 jeunes présents qui seraient sur la liste et pour lesquels ils rechercheraient des solutions d'hébergement, mais qu'il ne serait pas possible d'ajouter les jeunes qui arriveraient par la suite. Et donc, ils leur ont mis des bracelets afin que les jeunes y puissent en fait aller et venir au sein de l'Académie du Climat et être reconnus comme on est des jeunes, on est sur la liste et on était bien présents.
Le bracelet de couleur, c'est ça, il n'y avait pas d'informatique derrière, pas encore quoi.
Non,
parce que les jeunes ils sont bien rendus compte que quand ils débarquent en Europe, déjà il est sur les empreintes, c'est ouais. Ça. Donc déjà ils sont bien fliqués. Tout ce qui est sur le papier, c'est aussi pour les cataloguer. Donc là, il y en a vraiment beaucoup qu'on pas supporté quoi. Encore une fois, de devoir mettre une espèce de bracelet en plastique pour les cataloguer quoi. Il y en a un qui m'a dit on était comme du bétail quoi.
Mais en fait c'est vraiment ça quoi. Et puis sur les bracelets il y avait des QR codes. Ces bracelets là en fait c'est des vieux bracelets d'un événement parisien, ils ont dû les récupérer dans des stocks et les QR codes n'étaient liés à rien. Mais pour les jeunes, enfin c'était particulièrement violent. Ils ont dormi à 140 dans la salle des fêtes de l'Académie du Climat, réveillés à 6h. On s'est fait réveiller à 6h comme des chiens. On a dû plier les lits de camp, plier les couvertures. Ils ont dû faire la queue à 140 pour un petit-déj. Il y avait même pas assez de petit-déj pour tout le monde. Forcément que dans des conditions de survie comme ça, ça crée des tensions et c'est très difficile de faire fonctionner un collectif dans ces circonstances-là. Et donc en fait, le bracelet, c'était un peu une violence de plus pour les jeunes qui devaient donner leur nom, leur prénom, leur date de naissance, prouver qu'ils étaient bien sur la liste. Ensuite, on leur donnait un bracelet. Et puis même pour sortir et rentrer dans l'Académie du Climat, malgré les bracelets, enfin, c'était toujours des discussions incessantes. Oui, il est là, oui, on le connaît. Il fallait toujours appeler un des soutiens, un des blancs, qui confirmerait que ce jeune noir a le droit d'entrer, quoi.
Moi, je suis déjà rentré dans ce bâtiment hein, pour... On l'a pu justement visiter parce qu'on cherchait un bureau pour discuter quoi. Et on a vu énormément de pièces vides.
Mais l'endroit est géant.
Totalement vide. Il y a plusieurs, je sais pas, il y a 4 ou 5 étages. Mmh. Il y a une cour intérieure. C'est vraiment un vieux bâtiment.
Exactement. En fait, c'est l'ancienne mairie du 4e, l'Académie du Climat. Mmh. Et aujourd'hui, ça sert à. Alors moi, je pense que les questions écologiques sont très importantes. Ouais, ouais. Pour autant, je pense que ce lieu n'est pas utilisé comme il devrait l'être. Alors oui, il y a quelques activités pour les enfants, des lycées, des collèges, des écoles primaires parisiennes, également des arrondissements que la mairie aime cataloguer de défavorisés, de REP+. Ouais. Il y a une inclusion. Ils essayent de la faire. Pour autant, c'est un lieu qui est immense. Qui n'est pas utilisé tous les jours à sa capacité maximum. Et rien n'est fait pour accueillir des publics migrants à l'intérieur. Rien n'est fait pour accueillir des personnes à la rue.
Redonnons la parole un instant à Fousseini. Il était lui aussi présent lors de cette occupation éphémère de l'Académie du Climat. Et donc l'Académie du Climat, c'est un bâtiment... Qui est près de la mairie de Paris.
Justement, en face de la police municipale, genre en creuse, on n'avait pas, c'était pas l'idée d'occuper le lieu. Et l'idée, c'était quoi ? On avait un rassemblement qui était prévu devant les parvés de l'hôtel de ville, devant la mairie centrale, parce que c'était le conseil départemental par Madame Hidalgo, il parlait de ça. Mmh. On a été déguerpi, on a été dégagé par la police de la préfecture, donc on n'a pas de solution. On est resté des heures à attendre la réponse de la mairie, qui n'a pas voulu nous entendre. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était d'occuper l'Académie du Climat, qui appartient aux écologistes, qui se disent, voilà, on est là, voilà, nous, on s'occupe de...
En fait, c'est la mairie qui a donné les clés à différents groupes écologistes.
Juste donc... Nous aussi, on se disait, ok, l'idéal, c'est d'occuper l'Académie du Climat pour que la mairie nous attende aussi, qu'on reçoive une délégation de l'ERPA pour les parler de ce que la préfecture a fait. L'Académie du Climat, on a fait une journée, parce que voilà, on avait fait l'action la nuit, on est resté toute la nuit. Voilà, la mairie dit qu'il n'y a pas de solution, mais on peut passer la nuit là-bas, peut-être entre-temps. D'ici...
Et vous avez passé la nuit, il y avait des pièces vides.
Oui, il y avait plein de pièces vides parce que même il y avait un gymnase qui était en haut de l'immeuble. On est parti visiter l'immeuble, le gymnase, mais bon, on se disait que voilà, si on monte là-bas, on ne serait pas visible, quoi. Ouais. Il n'y aura pas la visibilité parce qu'on veut que la situation soit visible par la presse, les médias, tout le monde. Donc, on était obligé maintenant de redescendre au rez-de-chaussée. On est resté dans la cour tous ensemble avec des soutiens pour que voilà, la mairie soit là devant tout le monde. Qu'on en débatte le sujet ensemble.
Et
ça a duré jusqu'à...
Jusqu'à la fin de la journée, quoi.
Non, bah, jusqu'à... Parce que la mairie était venue, on est resté jusqu'à 1h du matin. Okay. Voilà. Par fini, la mairie dit, OK, vous restez jusqu'à ce qu'on a interpellé l'État. Donc, ils ont ouvert un gymnase le même jour, donc vers les 20h-21h, ils ont envoyé...
Et à l'académie, ils vous ont pas mis des QR codes ?
Justement, ils ont mis des bracelets en QR, comme ça.
Bracelets en plastique ?
Justement, les bracelets en plastique, comme ça, avec les scanners. Nous, les jeunes, nous, on se demandait, c'est quoi les scanners ou c'est quoi les bracelets ? Tu mets des choses, on dirait, nous sommes des esclaves quand même, quoi.
C'est clair.
Voilà. On interpelle.
Vous avez refusé ça ? Comment ça s'est passé ?
Bah, du coup, y a des jeunes qui étaient là, qui avaient des bracelets à un moment donné, que la mairie avait refusé à un moment donné de prendre les jeunes qui avaient des bracelets, parce qu'il y a d'autres jeunes aussi qui avaient d'autres rendez-vous au tribunal, se voir avec les avocats, et machin, des trucs comme ça. Mais voilà, par fin, ils étaient là. Maintenant, à la fin, il y a la police qui était devant la porte, que personne n'est rentré maintenant, des trucs comme ça. Il y avait une vingtaine de jeunes qui étaient au théâtre avec les bracelets, qui la mairie disait que non, voilà, vous attendez d'abord, voilà. Il y avait d'autres jeunes qui se sont révoltés, qui ont barricadé la voiture, que la voiture ne partait pas s'il n'y a pas une solution pour eux aussi. La mairie a pris tout le monde qui était là-bas et l'action qui a été faite, il y a eu 177 jeunes qui ont été hébergés la même nuit, quoi.
Et pour autant, nous, quand on discutait avec la directrice de l'Académie du Climat, elle était pour le fait qu'on soit là ce soir-là. Et je pense que les équipes étaient ravies, en fait, que ce lieu, il serve à faire de l'hébergement d'urgence à 140 jeunes qui, en fait, allaient passer la nuit sous les ponts. Les camarades qui travaillaient dans la buvette, des jeunes étudiants, je pense, en contrat étudiant, super précaire, qui se sont démenés pendant 3 heures avec des jeunes à faire à bouffer pour tout le monde parce qu'en fait, la mairie n'avait pas ramené de repas le midi. Enfin, tu vois, la réalité, c'est qu'on a été plutôt bien accueillis dans ce lieu. On a pu y passer la nuit et je pense que même les gens qui étaient, ils se disaient ouais, bah, pour une fois qu'il sert, quoi.
C'est ça.
En fait, ce lieu ne sert à rien. Mmh. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait une remise en question, quoi, vis-à-vis de ça, depuis le moment où on y est allé, et qu'ils se mettent à organiser des choses.
Ouais, parce que c'est vrai que l'accueil, on m'a dit aussi que l'accueil était plutôt sympa, mais après, c'est quand même scandaleux que vous soyez dégagé aussi vite sans qu'il y ait, je sais pas, de démarche de solidarité au sein de ce lieu-là. Avec des gens qui, depuis des années, en fait, sont là gratuitement, enfin, je veux dire gratuitement, oui, sans contrepartie, j'ai envie de dire. Peut-être qu'entre eux, maintenant, ils en discutent en disant, bah, tiens, on a quand même raté l'occasion de faire, je sais pas, une action vraiment politique en disant, bah, nous, on est d'accord pour qu'ils restent, et on fait tout pour qu'ils restent, et donc, on fait, je sais pas, on bloque, et ça s'est pas encore passé, ça. Tu vois, ça.
Ah oui, moi, quand je dis qu'on a été plutôt bien accueillis, je parle à l'échelle d'une occupation à Paris.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on s'est pas fait insulter.
Ouais.
Voilà, mais soyons aussi très honnêtes, les conversations avec les équipes de l'Académie du Climat, notamment la matinée, étaient complètement lunaires. Enfin, on disait aux jeunes qui étaient en train de pioncer sur le sol de la salle des fêtes, il faudrait sortir, on a besoin de la salle pour les activités des enfants. Et les jeunes leur disaient, mais est-ce que vous êtes en train de sérieusement nous dire d'aller dans la cour ? Il pleuvait ce jour-là. On leur disait d'aller dans la cour intérieure, qui n'est pas protégée, hein, elle n'est pas à l'abri, pour que les activités des enfants liées à l'écologie se tiennent dans la salle des fêtes, sans même proposer aux jeunes, je sais pas, de les inclure dans l'activité, par exemple, tu vois. Rien. On leur a dit, oui, mais vous savez, nous, on a un emploi du temps, là, les salles, elles sont prises, il faut que le lieu y tourne. Et les jeunes leur ont dit, à juste titre et à raison, en fait, on va bouger nulle part, nous, on mérite pas moins que les gosses qui viennent faire de l'origami et parler des arbres, à être à l'abri. On vit à la rue, on est malade, on est fatigué. Vous nous avez réveillés à 6h ce matin et vous nous demandez d'aller dans les coursives pas chauffées et dans la cour. Enfin voilà, c'était ça les discussions aussi avec les équipes de l'Académie du Climat qui, en fait, parce qu'on a fait pression, parce qu'on a négocié, parce qu'on n'a rien lâché, on finit par ouvrir d'autres salles, ouvrir la buvette, etc. Mais voilà, on s'est pas fait virer. Pour autant, ils ont pas décidé d'ouvrir grand les portes avec les banderoles des jeunes, avec nous laisser tracter, avec le fait de, en fait, se mettre derrière nous et de dire on est d'accord avec eux. Non, ça ne s'est pas passé. Et c'est pour autant ce qu'on aurait espéré attendre de personnes qui se revendiquent du militantisme écolo.
Vous avez de la sympathie, mais pas forcément de solidarité.
Exactement.
La sympathie, à un moment donné...
En fait, elle n'a jamais mis personne à l'abri. Et c'est de ça qu'on avait besoin ce jour-là, quoi.
Donc là, aujourd'hui, là, on est début mars. Il y a la pression à mort pour les JO.
Ouais.
Et est-ce que tu as l'impression que c'est un prétexte en plus, ou ils n'avaient pas besoin de ça pour faire chier tout le monde, tous les jeunes qui sont dehors ou...
Honnêtement, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Ils n'avaient pas besoin de ça pour faire chier les jeunes dehors. Le harcèlement policier, il n'est pas arrivé avec l'annonce des JO. Les démantèlements illégaux de campements ne sont pas arrivés avec les JO. Pour autant, ça aggrave énormément la situation, notamment en termes de présence policière, et pas que sur les campements. Par exemple, Porte de la Villette, c'est la plus grosse distribution alimentaire pour les publics à la rue. Aujourd'hui, il y a des flics partout qui contrôlent à la sortie du métro, contrôlent à la sortie du tramway. C'est des OQTF qui tombent, c'est du harcèlement policier. Les jeunes, ils ont peur, ils osent même plus y aller, quoi. Et on parle de distribution alimentaire. Il y a eu l'interdiction de distrib dans les quartiers de Stalingrad et La Chapelle il y a quelques temps, qui disait qu'en fait, c'est ça qui crée les lieux de vie informel, le fait que les assos distribuent de la nourriture, ça tu vois, on n'avait jamais interdit des distributions alimentaires dans les quartiers nord de Paris avant l'annonce des JO, quoi. Donc on sent que ça sert, on sent que ça se tend, on sent aussi qu'il y a un bras de fer entre la mairie et la préfecture sur que faire des publics sans abri. Pas seulement les publics migrants, mais ça je pense que c'est la question principale. Il y a les orientations en région.
Ça a été annoncé, ça, ouais. Ils vont dégager tout le monde en région pour...
Bah, ça a commencé, les orientations vers des SAS, qui sont en fait, ça s'appelle les SAS régionaux en province, quoi.
SAS, c'est ça ?
Ouais, SAS.
C'est que service ?
C'est service d'accueil de je sais pas quoi. Ouais. Et ça a commencé, ils le font avec des personnes qui sont potentiellement éligibles à des demandes d'asile, ils l'ont fait avec des personnes sans-abri françaises. Il y a aussi, enfin, je veux dire, là on parle des publics migrants parce qu'on parle des mineurs isolés étrangers, mais les travailleuses du sexe, à titre d'exemple, sont discriminées et victimes de harcèlement policier et de violences encore plus qu'elles ne l'étaient avant. Enfin, c'est tous ces publics-là, les publics consommateurs de drogue, qui sont en souffrance totale et reculés toujours plus derrière les murs de Paris. Là, ça s'aggrave avec les JO. Donc voilà. Et le bras de fer entre la mairie et la presse, il est réel. Et nous, on le sent à l'échelle des mineurs isolés étrangers. Par exemple, là, il y a la Seine qui déborde. Il y a eu des crues. Il y avait 250 jeunes qui survivaient sur des campements sous les ponts qui ont été inondés. Et donc là, ça fait un jour et demi, deux jours presque, que les jeunes ont été montés en haut. Donc sur le pont, là où la route, elle a été... barré parce qu'en fait c'est pas possible de circuler, et que la mairie et la préf s'embrouillent pour savoir qui va mettre à l'abri qui. Et moi j'ai de la place, mais moi j'ai pas de place. Et la préf répond, moi je sais pas ce que c'est des mineurs non accompagnés, ils sont soit mineurs soit majeurs, pas entre les deux. Et donc il y a rien. Et l'occupation de l'Académie du Climat, la mairie s'en est servie aussi dans son bras de fer avec la préf. C'est-à-dire que la mairie qui nous soutient dans cette occupation d'un bâtiment qui lui appartient, c'est pas pour rien. C'est qu'on est dans un contexte politique où en fait ça se bagarre pour savoir comment on va faire, comment ça va s'organiser, et la mairie s'est rangée derrière cette occupation pour dire à la préf, c'est votre bordel, gérez-le. Et en fait la vérité c'est que la préf n'a rien géré, et que les gymnases ouverts, c'est la mairie qui les finance, c'est la mairie qui les a ouverts, et que la préf n'a jamais répondu. Donc l'État bloque.
Non mais c'est constamment le jeu des c'est à toi, c'est à moi, quoi.
C'est ça.
Et t'as peut-être un truc à rajouter qu'on n'a pas abordé, qui tient à cœur ?
Ouais, bah moi je pense que ce qui est très intéressant à voir là dans la séquence actuelle, c'est que pour la première fois dans l'histoire, il y a un collectif de mineurs isolés qui s'est créé, où ils ont décidé de lutter pour leurs droits eux-mêmes. Et ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils ont enchaîné les actions, qu'ils ont été soutenus par des militants solidaires du 20e arrondissement de Paris, par des militants politiques. Et on voit que ça fonctionne, que l'auto-organisation, elle n'est pas facile quand on est des publics aussi précarisés, en mode survie constante, mais qu'ils essayent et qu'on voit que ça fonctionne, et on voit que... Il y a tout un travail politique qui est en train d'être fait, et on en parle d'eux. On les voit médiatiquement, on les voit. Ils se sont rapprochés des collectifs de sans-papiers. Vendredi, on a fait une manifestation. Il y avait les mineurs, il y avait les collectifs de sans-papiers. Ensemble, les collectifs de sans-papiers ont demandé une délégation à la préfecture qui inclurait des mineurs isolés. Tout ça, ça n'avait jamais existé. C'est nouveau. Je pense que la situation politique actuelle nous force aussi à en arriver là. Mais je pense que c'est aussi beau et c'est intéressant de remarquer que les jeunes ont arrêté d'être passifs face à leur situation, ne dépendent plus uniquement de l'aide associative, mais ont aujourd'hui tout un pan politique entre leurs mains, font un vrai travail de réunion, d'assemblée générale, d'organisation, de gestion, de logistique et de récolte de fonds pour faire tourner leur mouvement. Et c'est important, je pense, de se mobiliser à leur côté et de soutenir cette initiative parce que l'auto-organisation, c'est difficile. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent, ça coûte cher en énergie. Et ils le font. Et quelle excuse nous on a à pas le faire avec eux? Je pense aucune.
Pour Tara, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des moyens de vous aider pour faire des dons, je sais pas, des...
Ouais, bah nous on peut nous trouver sur la page Instagram Centre Tara, notre site internet il sera bientôt prêt. Comme je l'ai dit, nous on est la seule association d'Île-de-France à financer le fait de faire venir des documents d'état civil des jeunes de leur pays d'origine jusqu'en France. On est également les seuls à financer le fait d'envoyer de l'argent aux familles pour qu'ils puissent faire éditer ces documents parce qu'en fait ils les ont pas toujours. Et tout ça, ça a un coût, c'est cher, et sans ces documents-là, les recours des jeunes ils avancent pas, les procédures sont bloquées. Et donc voilà, on a besoin d'argent. Nous, on refuse de demander de l'argent au gouvernement, on refuse de demander de l'argent à des fonds privés. Donc, c'est difficile de s'en sortir quand on ne fonctionne que par des dons de particuliers. Donc, voilà, si vous avez un peu à donner, n'hésitez pas. Et si vous avez du temps à donner, contactez-nous aussi sur Instagram.
Merci beaucoup.
Voilà pour cet entretien avec cette bénévole du centre Tara, donc qui accompagne ces jeunes mineurs dans cet horrible parcours du combattant. Alors, si vous voulez les aider, comme l'a dit tout à l'heure Fousseini, la cagnotte du collectif, ça se trouve sur les comptes Instagram de Belleville Mobilisation et du collectif des jeunes du parc de Belleville. Et retrouvez tous ces liens et d'autres ressources sur le site de l'émission et de Souriez, vous êtes filmé, souriez.info. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
Justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.